Calade, 100.9.
L'info locale et régionale.
Présentée par Sylvie Rosier.
Sans réelle surprise, remaniement. Gabriel Attal échange avec Elisabeth Borne. Passation de pouvoir donc à Matignon. Jusqu'ici, ministre de l'Éducation nationale, Gabriel Attal devient ce mardi 9 janvier Premier ministre. Il succède à Elisabeth Borne qui a présenté la veille, puisqu'il le fallait, la démission de son gouvernement au patron. Gabriel Attal devient le plus jeune ministre de l'histoire de la 5e République. Ascension expresso au sein de la Macronie. Les langues les plus taquines déferlent sur X. Marine n'est pas convaincue du tout du nouveau arrivé de Matignon. Encore moins du balai puéril des égaux, signe-t-elle sur X. Une popularité sondagière pour atténuer la douleur d'une interminable fin de règne, écrit le président du Rassemblement national sur X. Une chute certaine pour l'éphémère ministre de l'Éducation nationale. Changement de casting, mais pas de politique. Chronique d'un désastre annoncé, la présidente des députés écologistes à l'Assemblée sur X. Quelle merveilleuse nouvelle pour l'éducation, tente d'ironiser Nadja Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation nationale de gauche. Homme politique français, Gabriel, militant au Parti socialiste de 2006 à 2016, ancien membre du cabinet de la ministre de la Santé Marisol Touraine de 2012 à 2017, c'est en 2016 qu'il rejoint le parti fondé par Emmanuel Macron. Et dire qu'Elisabeth Borne venait des rangs du PS. Elle a travaillé auprès d'élus socialistes comme Lionel Jospin ou Jack Land lorsqu'ils étaient ministres au début des années 90. Elle a ensuite été conseillère au cabinet du Premier ministre Lionel Jospin entre 97 et 2002, puis directrice du cabinet de Ségolène Royal au ministère de l'écologie en 2014 et 2015. Un vrai CV proche du PS donc. Par ailleurs, elle se revendique de gauche. « Je suis une femme de gauche. La justice sociale et l'égalité des chances sont au cœur de mes combats », indiquait-elle encore récemment. Une vingtaine de 49.3 après, une réforme des retraites, on y ajoute le projet de loi Immigration-Intégration-Asile 2023, à marche forcée contre les citoyens. Le jeune prodige charismatique remplaçant Elisabeth, ancien gauchiste lui aussi, se réclamerait-il braver fièrement la justice sociale ou l'égalité? Qu'en sera-t-il de la fraternité? Je n'ose y penser.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur Calade.
Calade, ma radio.
Le 1er janvier, l'Opaque du Rhône est devenu de Fleuve Rhône Habitat. Afin de renforcer sa capacité à répondre aux besoins en matière de logement et d'aménagement, l'Opaque du Rhône s'est associé avec Loire Habitat pour créer le groupe début janvier. Avec nous Guillaume Rio, directeur général de De Fleuve Rhône Habitat.
Il s'agit d'une association entre deux offices publics de l'habitat, deux offices départementaux. L'un qui est établi sur le territoire du Rhône, dans le département évidemment, et l'autre dans la Loire. Donc on a deux offices départementaux présidés par les deux départements, les deux présidents des départements qui se sont accordés l'un et l'autre pour construire une vision commune du territoire et construire un groupe qui a vocation à associer les compétences, associer les expertises, les équipes bien évidemment, de façon à être plus fort, plus solide, plus présent sur l'ensemble des deux territoires. Mais il ne s'agit surtout pas d'une fusion, mais bien d'une association, chacun sur son territoire départemental.
Une concurrence qui lie les deux agences bailleurs sociaux.
Absolument, les offices publics sont financés par le livret A, comme le reste des organismes du logement sociaux sur le territoire français. Il existe toutefois une différence avec des entreprises qui sont des entreprises privées et qui bénéficient assez largement de ce qu'on appelle le 1% logement. Cette enveloppe du 1% permet d'améliorer sensiblement les fonds propres qui peuvent être mis à disposition d'opérations sur l'ensemble du département. Les offices publics ne bénéficient pas de cette manne, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Donc il y a un impératif à se rassembler, à se regrouper, à se structurer, à développer nos expertises de façon à être plus fort sur un marché qui devient très concurrentiel et parfois très difficile.
Sur quel parc locatif désormais s'étend l'organisme de logement social?
Alors, le groupe de Fleuve, qui sera constituée à partir du 1er janvier 2024. Elle sera constituée de deux offices publics départementaux, deux fleuves Rhône Habitat, deux fleuves Loire Habitat et d'une entreprise sociale pour l'habitat qui sera spécialisée dans la construction de résidences spécialisées. L'ensemble représentera plus de 26 000 logements avec un chiffre d'affaires à 188 millions d'euros. Plus de 550 collaborateurs. Une vraie force de frappe au service des territoires des deux départements.
Un besoin spécifique en logements sociaux. Ces dernières années, la France est très loin du compte en capacité d'offre.
Tout à fait. Le nombre de demandeurs tend à augmenter. Depuis des années, la situation ne s'arrange pas. Sur le département du Rhône, dit du Nouveau Rhône, c'est-à-dire en dehors de la métropole, la situation n'est pas tellement plus facile que sur la métropole, puisque un certain nombre de décisions sur le territoire métropolitain amènent à ce que des opérateurs dépassent, sortent du territoire métropolitain et viennent sur le département du Rhône, ce qui n'est pas toujours très simple pour nous, les offices publics, par la suite, d'accéder à la ressource foncière, puisque s'il n'y a pas de terrain, c'est de toute façon difficile de construire des opérations de logement pour répondre aux besoins des populations. Ce qui est une contrainte importante, c'est l'accès au foncier et le coût du foncier. Il y a d'une part la raréfaction du foncier, bien sûr. Et donc on a parlé tout à l'heure de la loi ZAN. Donc ça, c'est une première difficulté. Et par ailleurs, quand il y a du foncier, il y a aussi une difficulté d'y accéder par rapport au prix. Puisque depuis 10 ans, la ressource foncière est arrivée à un niveau de prix qui est parfois incompatible avec l'équilibre des opérations. Ce qui amène un certain nombre d'opérateurs, offices publics mais aussi entreprises privées, à travailler avec des promoteurs, puisque eux disposent d'un modèle économique. Ils ne sont pas soumis aux mêmes réglementations, ils peuvent vendre au prix du marché, ce qui n'est pas le cas des bailleurs sociaux, qui sont limités dans les prix de vente. Et c'est parfois, un peu trop souvent, par les promoteurs qu'on arrive à recréer du logement social.
Pour pouvoir prétendre à l'attribution d'un logement social, les ménages doivent disposer de revenus inférieurs à certains plafonds de ressources. Ils ont été revalorisés de 3,5% pour l'année 2024.
Là, il s'agit de la part sociale, ce qu'on qualifie souvent de la part sociale, puisque c'est généralement défini dans les PLU, avec un minimum, c'est souvent 25-30%, parfois plus. On est bien sur du logement social, financé dans les modalités, les conditions habituelles du logement social, avec des niveaux de loyer qui sont très maîtrisés, une qualité de gestion qui est celle des bailleurs sociaux, donc d'un bon niveau. On évoquait tout à l'heure les passoires thermiques, il y en a deux fois moins dans le parc social que par rapport au parc privé, ce qui montre la qualité de gestion des organismes de logements sociaux en général.
L'OPAC du Rhône et Loire Habitat s'associent pour constituer à part égale la société anonyme de coordination SAC au fil des deux fleuves. Ce changement de nom de fleuve Rhône Habitat n'a pas de conséquences directes sur la vie quotidienne des locataires. Les contacts au niveau de l'office et les services qui leur sont proposés restent les mêmes. Le Festival des Jeux 2024, les 13 et 14 janvier prochains, à l'Atelier à Villefranche-sur-Saône, à l'initiative du Lions Club Beaujolais. Une 16e édition du Festival des Jeux en Calade, un événement intergénérationnel, fédérateur, de loisirs en famille, des jeux multiples et diversifiés, du traditionnel jeu collectif, coopératif, aux jeux vidéo, nouvelles technologies, des rendez-vous gratuits. Et tout particulièrement, un festival au profit d'enfants malades ou maltraités. Vincent Deschaux, Bob Fourdraine et Stéphane Berland, membres du Lions Club Beaujolais, à l'initiative de l'événement, nous accompagnent.
Vincent Deschaux, je suis membre du Lions Club de Villefranche et actuellement directeur du festival pour cette édition 2024. Oui, l'objectif de ce festival, c'est vraiment au cœur de la ville de réunir les familles, les enfants, les plus âgés autour de la passion ou de la découverte du jeu, quel qu'il soit, avec des jeux extrêmement variés. On a des jeux de société,
on en reviendra.
Des jeux de construction, on en parlera peut-être un petit peu après.
Et puis, donc des jeux, mais également aussi dans l'idée de valeurs un peu humaines, en quelque sorte, de solidarité aussi, on peut le dire.
Oui, tout à fait, parce que ce festival nous permet, en tant qu'association Lions Club, de réunir aussi des fonds qui sont ensuite, tout au long de l'année, reversés à une grosse quinzaine d'associations locales. que nous soutenons sous différents angles, avec comme objectif principal et majeur de l'aide à l'enfance.
Et le jeu, forcément, réunit aussi un peu tout le monde, des plus petits aux plus grands, et ça donne donc un objectif aussi un peu, peut-être, de lien, comme ça, tissé dans la ville intergénérationnelle, en quelque sorte.
Oui, tout à fait. Nous voulions créer une activité pérenne au bénéfice de la population caladoise, plutôt pendant l'hiver, parce que pour nous, c'était effectivement un moment, notamment après les fêtes, de se retrouver. Il est important de noter que l'entrée est gratuite. Pourquoi gratuite ? Et ça, grâce à nos sponsors et à l'activité de nos membres auprès des sponsors, pour pouvoir l'ouvrir le plus largement possible auprès des familles.
Donc, Bob Audren, membre du Lions Club, j'interviens surtout au niveau du loto le vendredi soir.
Un festival des jeux qui a su, au cours de ces années, tisser des liens en partenariat avec des acteurs de la collectivité, mais également diversifier les lieux d'accueil en ville.
Alors, on a comme partenaire, effectivement, déjà la ville, qui nous prête donc les locaux. On a l'école Notre-Dame également, qui nous met à disposition son gymnase et une partie de ses locaux. Le cours Perrier également, et puis cette année une nouveauté avec la Maison du Patrimoine qui se joint à nous pour une première édition, avec la possibilité d'accueillir là aussi des associations qui feront démonstration de jeux de figurines notamment.
Si le jeu est essentiel au développement global de l'enfant, ses sens, son éveil, sa stimulation, mais c'est aussi une fabuleuse façon d'apprendre, et même pour les adultes, comme maîtriser certains comportements ou encore comprendre la coopération en permettant l'apprentissage de l'autonomie, la démocratie et le sens moral, sans oublier le divertissement qu'il procure et le défi, les bienfaits du dépassement de soi.
Stéphane Berland, je suis membre du Lions Club et au bureau cette année, je suis chef du protocole. Alors le Festival des Jeux, c'est un événement pendant lequel, Bob Fordren le rappelait déjà, les entrées sont gratuites parce qu'on veut ouvrir le festival au plus de monde possible. Et c'est deux jours pendant lesquels on découvre des jeux, on joue en famille, on a parfois des créateurs de jeux qui viennent tester leurs créations, avoir un petit peu le retour du public sur ces créations. Et puis, on essaye, nous, d'actualiser un petit peu ce qu'on peut proposer, avec notamment des choses qu'on voit un peu moins souvent, des personnes qui font du cosplay, du rétro gaming, des jeux de construction, des jeux de plateau. Et donc pendant deux jours, on a des familles qui peuvent venir et tester plusieurs jeux, rencontrer des créateurs de contenu. Nous, sur place, on a une buvette pour permettre à tout le monde de pouvoir se sustenter, de prendre une bouteille d'eau, un hot dog, quelque chose pour les enfants, pour tout le monde. On peut y manger le midi. Et puis, c'est surtout un moment d'échange et de partage entre amis et en famille.
L'ouverture du Festival des Jeux 2024, le vendredi 12 janvier à 19h, pour son traditionnel loto à l'atelier à Villefranche-sur-Saône, pour une bonne cause.
Alors l'atelier, c'est un petit peu le vaisseau amiral, si je puis dire. C'est vraiment le lieu d'accueil, c'est un peu le lieu central. C'est la plus belle salle également, et on va retrouver donc tous les jeux de société. C'est là que se déroule également le vendredi soir le loto dont parlait Bob il y a quelques instants. Le loto est important pour nous puisqu'on réunit entre 300 et 400 personnes à l'occasion de ce loto. Et ce loto nous permet de réunir des fonds qui vont venir compléter l'ensemble des recettes que l'on a par la buvette et les sponsors qui participent à l'événement. Puisque c'est la 16e année, c'est vrai qu'au début, il y a une dizaine d'années, on était sur des jeux relativement traditionnels, Scrabble, Monopoly, des choses comme ça, qui existent toujours aujourd'hui.
Mais mécano, etc.
Alors, jeux de construction mécano, Lego aujourd'hui, qui remporte un vif succès. Et puis aussi, c'est l'occasion de découvrir des nouveaux jeux. Donc, soit des jeux entre guillemets exotiques, des jeux qui nous viennent un peu des quatre coins du monde et qui sont animés par des passionnés soit de la région, soit parfois d'associations partenaires qui viennent d'assez loin. On a par exemple des gens qui viennent de Nice spécialement pour nous présenter un jeu spécifique qui s'appelle La Ouélée. Et puis après, on a des jeux beaucoup plus modernes aujourd'hui, avec des figurines, des jeux avec des personnages imaginaires. Et puis on a toujours les traditionnels dictées de Bernard Pivot, on a du Scrabble, on a du poker, de la belote, exactement. Et puis après, donc cette année, on essaye de segmenter un petit peu les thématiques de jeu par site. Donc l'atelier, encore une fois, un peu le vaisseau amiral avec l'ensemble des jeux de société modernes, anciens et les créateurs. le gymnase Notre-Dame qui lui est consacré aux jeux de construction. Donc cette année, on va accueillir des mini-trains à l'échelle Z, c'est-à-dire que la petite locomotive fait 1 cm carré à peu près. Hein. Tout ça est miniaturisé. Les mécanos qui sont largement représentés chaque année depuis l'origine du festival. Et puis des jeux de briques, des gros jeux de briques pour les enfants.
Le Festival des Jeux 2024, les 13 et 14 janvier prochains, à l'atelier à Villefranche-sur-Saône. Et d'autres lieux, l'atelier, les échevins, lycée Notre-Dame et la maison du patrimoine. Le programme à découvrir, festivaldesjeux.fr et ne manquez pas le loto du vendredi 12 janvier à 19h à l'atelier pour un loto au profit des enfants malades.
L'info locale et régionale, c'est tous les jours sur le 100.9 et radio-calade.fr.
Calade, ma radio.